Lettre 87. Rika A. Il semble ici que les familles se gouvernent toutes seules. Le mari n'a qu'une ombre d'autorité sur sa femme, le père sur ses enfants, le maître sur ses esclaves. La justice se mêle de tous leurs différends, et sois sûr qu'elle est toujours contre le mari jaloux, le père chagrin, le maître incommode. J'allais l'autre jour dans le lieu où se rend la justice. Avant d'y arriver, il faut passer sous les armes d'un nombre infini de jeunes marchandes qui vous appellent d'une voix trompeuse. Ce spectacle, d'abord, est assez riant, mais il devient lugubre lorsqu'on entre dans les grandes salles, où l'on ne voit que des gens dont l'habit est encore plus grave que la figure. Enfin, on entre dans le lieu sacré, où se révèlent tous les secrets des familles, et où les actions les plus cachées sont mises au grand jour. Là, une fille modeste vient avouer les tourments d'une virginité trop longtemps gardée, ses combats et sa douloureuse résistance. Elle est si peu fière de sa victoire qu'elle menace toujours d'une défaite prochaine, et pour que son père n'ignore plus ses besoins, elle les expose à tout le peuple. Une femme effondrée vient ensuite exposer les outrages qu'elle a faits à son époux comme une raison d'en être séparée. Avec une modestie pareille, une autre vient dire qu'elle est lasse de porter le titre de femme sans en jouir. Elle vient révéler les mystères cachés dans la nuit du mariage. Elle veut qu'on la livre au regard des experts les plus habiles et qu'une sentence la rétablisse dans tous les droits de la virginité. Il y en a même qui osent défier leur mari et leur demander en public un combat que les témoins rendent si difficile. Épreuve aussi flétrissante pour la femme qui la soutient que pour le mari qui y succombe. Un nombre infini de filles, ravies ou séduites, font les hommes beaucoup plus mauvais qu'ils ne le sont. L'amour fait retentir ce tribunal. On n'y entend parler que de pères irrités, de filles abusées, d'amants infidèles et de maris chagrins. Par la loi qui y est observée, tout enfant né pendant le mariage est censé d'être au mari. Il a beau avoir de bonnes raisons pour ne pas le croire, la loi le croit pour lui et le soulage de l'examen et des scrupules. Dans ce tribunal, on prend les voix à la majeure, comme on dit, qu'on a reconnu par expérience qu'il vaudrait mieux les recueillir à la mineure. Et cela est assez naturel, car il y a très peu d'esprits justes, et tout le monde convient qu'il y en a une infinité de faux. De Paris, le premier de la lune de Gemadi II, 1715. Lettre 88. Rika A. On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied-là, il me paraît qu'un Français est plus homme qu'un autre. C'est l'homme par excellence, car il semble être fait uniquement pour la société. Mais j'ai remarqué parmi eux des gens qui non seulement sont sociables, mais sont eux-mêmes la société universelle. Ils se multiplient dans tous les coins. Ils peuplent en un moment les quatre quartiers d'une ville. 100 hommes de cette espèce abondent plus que 2000 citoyens. Ils pourraient réparer, aux yeux des étrangers, les ravages de la peste ou de la famine. On demande dans les écoles si un corps peut être en un instant en plusieurs lieux. Ils sont une preuve de ce que les philosophes mettent en question. Ils sont toujours empressés parce qu'ils ont l'affaire importante de demander à tout ce qu'ils voient où ils vont et d'où ils viennent. On ne leur ôterait jamais de la tête qu'il est de la bienséance de visiter chaque jour le public en détail, sans compter les visites qu'ils font en gros dans les lieux où l'on s'assemble. Mais comme la voix en est trop abrégée, elles sont comptées pour rien dans les règles de leur cérémonial. Ils fatiguent plus les portes des maisons à coups de marteau que les vents et les tempêtes. Si on allait examiner la liste de tous les portiers, on y trouverait chaque jour leur nom estropié de mille manières en caractère suisse. Ils passent leur vie à la suite d'un enterrement, dans des compliments de condoléances ou dans des sollicitations de mariage. Le roi ne fait point de gratification à quelqu'un de ses sujets qu'il ne leur en coûte une voiture pour lui en aller témoigner leur joie. Enfin, ils reviennent chez eux, bien fatigués, se reposer, pour pouvoir reprendre le lendemain leur pénible fonction. Un d'eux mourut l'autre jour de lassitude, et on mit cette épitaphe sur son tombeau. C'est ici que repose celui qui ne s'est jamais reposé. Il s'est promené à 530 enterrements. Il s'est réjoui de la naissance de 2680 enfants. Les pensions dont il a félicité ses amis, toujours dans des termes différents, montent à 2 600 000 livres. Le chemin qu'il a fait sur le pavé à 9 600 stades. Celui qui a fait dans la campagne à 36. Sa conversation était amusante. Il avait un fonds tout fait de 365 comptes. Il possédait d'ailleurs, depuis son jeune âge, 118 apophthegmes, tirés des anciens qu'il employait dans les occasions brillantes. Il est mort, enfin, à la 60e année de son âge. Je me tais, voyageur, car comment pourrais-je achever de te dire ce qu'il a fait et ce qu'il a vu? À Paris, le 3 de la lune de Gemadi 2, 1715. Lettre 89. Usbek à Redi, à Venise. À Paris règne la liberté et l'égalité. La naissance, la vertu, le mérite même de la guerre, quelque brillant qu'il soit, ne sauvent pas un homme de la foule dans laquelle il est confondu. La jalousie des rangs y est inconnue. On dit que le premier de Paris est celui qui a les meilleurs chevaux à son carrosse. Un grand seigneur est un homme qui voit le roi, qui parle au ministre, qui a des ancêtres, des dettes et des pensions. S'il peut avec cela cacher son oisiveté par un air empressé ou par un fin attachement pour les plaisirs, il croit être le plus heureux de tous les hommes. En Perse, il n'y a de grands que ceux à qui le monarque donne quelque part au gouvernement. Ici, il y a des gens qui sont grands par leur naissance, mais ils sont sans crédit. Les rois font comme ces ouvriers habiles qui, pour exécuter leurs ouvrages, se servent toujours des machines les plus simples. La faveur est la grande divinité des Français. Le ministre est le grand prêtre qui lui offre bien des victimes. Ceux qui l'entourent ne sont point habillés de blanc. Tantôt sacrificateurs et tantôt sacrifiés, ils se dévouent eux-mêmes à leur idole avec tout le peuple. De Paris, le 9 de la lune de Gemadi 2, 1715. Lettre 90. Usbek à Ibn, à Smyrne. Le désir de la gloire n'est point différent de cet instinct que toutes les créatures ont pour leur conservation. Il semble que nous augmentons notre être lorsque nous pouvons le porter dans la mémoire des autres. C'est une nouvelle vie que nous acquérons et qui nous devient aussi précieuse que celle que nous avons reçue du ciel. Mais, comme tous les hommes ne sont pas également attachés à la vie, ils ne sont pas aussi également sensibles à la gloire. Cette noble passion est bien toujours gravée dans leur cœur, mais l'imagination et l'éducation la modifient de mille manières. Cette différence, qui se trouve d'homme à homme, se fait encore plus sentir de peuple à peuple. On peut poser pour maxime que dans chaque état, le désir de la gloire croît avec la liberté des sujets et diminue avec elle. La gloire n'est jamais compagne de la servitude. Un homme de bon sens me disait l'autre jour : on est, en France, à bien des égards, plus libre qu'en Perse. Aussi y aime-t-on plus la gloire. Cette heureuse fantaisie fait faire à un Français, avec plaisir et avec goût, ce que votre sultan n'obtient de ses sujets qu'en leur mettant sans cesse devant les yeux les supplices et les récompenses. Aussi, parmi nous, le prince est-il jaloux de l'honneur du dernier de ses sujets. Il y a pour le maintenir des tribunaux respectables. C'est le trésor sacré de la nation, et le seul dont le souverain n'est pas le maître, parce qu'il ne peut l'être sans choquer ses intérêts. Ainsi, si un sujet se trouve blessé dans son honneur par son prince, soit par quelque préférence, soit par la moindre marque de mépris, il quitte sur-le-champ sa cour, son emploi, son service et se retire chez lui. La différence qu'il y a des troupes françaises aux vôtres, c'est que les unes, composées d'esclaves naturellement lâches, ne surmontent la crainte de la mort que par celle du châtiment, ce qui produit dans l'âme un nouveau genre de terreur qui la rend comme stupide. Au lieu que les autres se présentent au coup avec délices et bannissent la crainte par une satisfaction qui lui est supérieure. Mais le sanctuaire de l'honneur, de la réputation et de la vertu semble être établi dans les républiques et dans les pays où l'on peut prononcer le mot de patrie. À Rome, à Athènes, à Lacédémone, l'honneur payait seul les services les plus signalés. Une couronne de chêne ou de laurier, une statue, un éloge, était une récompense immense pour une bataille gagnée ou une ville prise. Là, un homme qui avait fait une belle action se trouvait suffisamment récompensé par cette action même. Il ne pouvait voir un de ses compatriotes qu'il ne ressentît le plaisir d'être son bienfaiteur. Il comptait le nombre de ses services par celui de ses concitoyens. Tout homme est capable de faire du bien à un homme. Mais c'est ressembler aux dieux que de contribuer au bonheur d'une société entière. Or, cette noble émulation ne doit-elle point être entièrement éteinte dans le cœur de vos persans, chez qui les emplois et les dignités ne sont que des attributs de la fantaisie du souverain? La réputation et la vertu y sont regardées comme imaginaires, si elles ne sont accompagnées de la faveur du prince, avec laquelle elles naissent et meurent de même. Un homme qui a pour lui l'estime publique n'est jamais sûr de ne pas être déshonoré demain. Le voilà aujourd'hui général d'armée. Peut-être que le prince le va faire son cuisinier et qu'il ne lui laissera plus à espérer d'autre éloge que celui d'avoir fait un bon ragoût. De Paris, le 15 de la lune de Gemadi II, 1715. Lettre 91. Usbek au même, à Smyrne. De cette passion générale que la nation française a pour la gloire, il s'est formé dans l'esprit des particuliers un certain je ne sais quoi, qu'on appelle point d'honneur. C'est proprement le caractère de chaque profession. Mais il est plus marqué chez les gens de guerre, et c'est le point d'honneur par excellence. Il me serait bien difficile de te faire sentir ce que c'est, car nous n'en avons point précisément d'idée. Autrefois, les Français, surtout les nobles, ne suivait guère d'autres lois que celles de ce point d'honneur. Elles réglaient toute la conduite de leur vie, et elles étaient si sévères qu'on ne pouvait, sans une peine plus cruelle que la mort, je ne dis pas les enfreindre, mais en éluder la plus petite disposition. Quand il s'agissait de régler les différends, elles ne prescrivaient guère qu'une manière de décision, qui était le duel, qui tranchait toutes les difficultés. Mais ce qu'il y avait de mal, c'est que souvent le jugement se rendait entre d'autres parties que celles qui y étaient intéressées. Pour peu qu'un homme fût connu d'un autre, il fallait qu'il entrât dans la dispute et qu'il payât de sa personne, comme s'il avait été lui-même en colère. Il se sentait toujours honoré d'un tel choix et d'une préférence si flatteuse. Et tel qui n'aurait pas voulu donner 4 pistoles à un homme pour le sauver de la potence, lui et toute sa famille, ne faisait aucune difficulté d'aller risquer pour lui 1000 fois sa vie. Cette manière de décider était assez mal imaginée, car de ce qu'un homme était plus adroit ou plus fort qu'un autre, il ne s'ensuivait pas qu'il eût de meilleures raisons. Aussi les rois l'ont-ils défendu sous des peines très sévères, mais c'est en vain. L'honneur, qui veut toujours régner, se révolte, et il ne reconnaît point de loi. Ainsi les Français sont dans un état bien violent, car les mêmes lois de l'honneur obligent un honnête homme de se venger quand il a été offensé. Mais d'un autre côté, la justice le punit des plus cruelles peines lorsqu'il se venge. Si l'on suit les lois de l'honneur, on périt sur un échafaud. Si l'on suit celle de la justice, on est banni pour jamais de la société des hommes. Il n'y a donc que cette cruelle alternative, ou de mourir, ou d'être indigne de vivre. De Paris, le 18 de la lune de Gemadi II, 1715. Lettre 92. Usbek à Rustan, à Ispahan. Il paraît ici un personnage travesti en ambassadeur de Perse, qui se joue insolemment des deux plus grands rois du monde. Il apporte au monarque des Français des présents que le nôtre ne saurait donner à un roi d'Irimette ou de Georgie, et par sa lâche avarice, il a flétri la majesté des deux empires. Il s'est rendu ridicule devant un peuple qui prétend être le plus poli de l'Europe, et il a fait dire en Occident que le roi des rois ne domine que sur des barbares. Il a reçu des honneurs qu'il semblait avoir voulu se faire refuser lui-même, et, comme si la cour de France avait eu plus à cœur la grandeur persane que lui, elle l'a fait paraître avec dignité devant un peuple dont il est le mépris. Ne dis point ceci à Ispahan. Épargne la tête d'un malheureux. Je ne veux pas que nos ministres le punissent de leur propre imprudence et de l'indigne choix qu'ils ont fait. De Paris, le dernier de la lune de Gemadi II, 1715. Lettre 93. Usbek à Redi, à Venise. Le monarque qui a si longtemps régné n'est plus. Il a bien fait parler des gens pendant sa vie. Tout le monde s'est tu à sa mort. Ferme et courageux dans ce dernier moment, il a paru ne céder qu'au destin. Ainsi mourut le grand chat Abba, après avoir rempli toute la terre de son nom. Ne crois pas que ce grand événement n'ait fait faire ici que des réflexions morales. Chacun a pensé à ses affaires et à prendre ses avantages dans ce changement. Le roi, arrière-petit-fils du monarque défunt, n'ayant que 5 ans, un prince, son oncle, a été déclaré régent du royaume. Le feu roi avait fait un testament qui bornait l'autorité du régent. Ce prince habile a été au parlement, et, y exposant tous les droits de sa naissance, il a fait casser la disposition du monarque, qui, voulant se survivre à lui-même, semblait avoir prétendu régner encore après sa mort. Les parlements ressemblent à ces ruines que l'on foule aux pieds, mais qui rappellent toujours l'idée de quelque temple fameux par l'ancienne religion des peuples. Ils ne se mêlent guère plus que de rendre la justice, et leur autorité est toujours languissante, à moins que quelque conjoncture imprévue ne vienne lui rendre la force et la vie. Ces grands corps ont suivi le destin des choses humaines. Ils ont cédé au temps, qui détruit tout, à la corruption des mœurs, qui a tout affaibli, à l'autorité suprême, qui a tout abattu. Mais le régent, qui a voulu se rendre agréable au peuple, a paru d'abord respecter cette image de la liberté publique, et comme s'il avait pensé à relever de terre le temple et l'idole, il a voulu qu'on les regardât comme l'appui de la monarchie et le fondement de toute autorité légitime. De Paris, le 4 de la lune de Régeb, 1715. Lettre 94. Usbek à son frère, Santon, au monastère de Casbah. Je m'humilie devant toi, sacré Santon, et je me prosterne. Je regarde les vestiges de tes pieds comme la prunelle de mes yeux. Ta sainteté est si grande qu'il semble que tu aies le cœur de notre saint prophète. Tes austérités étonnent le ciel même. Les anges t'ont regardé du sommet de la gloire et ont dit: comment est-il encore sur la terre, puisque son esprit est avec nous et vole autour du trône qui est soutenu par les nuées? Et comment ne t'honorerais-je pas, moi qui ai appris de nos docteurs que les dervis, même infidèles, ont toujours un caractère de sainteté, qui les rend respectables aux vrais croyants, et que Dieu s'est choisi, dans tous les coins de la terre, des âmes plus pures que les autres, qu'il a séparé du monde impie, afin que leur mortification et leur prière fervente suspendissent sa colère prête à tomber sur tant de peuples rebelles. Les chrétiens disent des merveilles de leurs premiers santons, qui se réfugièrent à milliers dans les déserts affreux de la Thébaïde et eurent pour chefs Paul, Antoine et Pacôme. Si ce qu'ils ont dit est vrai, leurs vies sont aussi pleines de prodiges que celles de nos plus sacrés imaumes. Ils passaient quelquefois 10 ans entiers sans voir un seul homme, mais ils habitaient la nuit et le jour avec des démons. Ils étaient sans cesse tourmentés par ces esprits malins. Ils les trouvaient au lit, ils les trouvaient à table. Jamais d'asile contre eux. Si tout ceci est vrai, Santone véritable, il faudrait avouer que personne n'aurait jamais vécu en plus mauvaise compagnie. Les chrétiens sensés regardent toutes ces histoires comme une allégorie bien naturelle qui nous peut servir à nous faire sentir le malheur de la condition humaine. En vain cherchons-nous dans le désert un état tranquille. Les tentations nous suivent toujours. Nos passions, figurées par les démons, ne nous quittent point encore. Ces monstres du cœur, ces illusions de l'esprit, ces vains fantômes de l'erreur et du mensonge, se montrent toujours à nous pour nous séduire et nous attaquent jusque dans les jeûnes et les cilices, c'est-à-dire jusque dans notre force même. Pour moi, Santone vénérable, je sais que l'envoyé de Dieu a enchaîné Satan et l'a précipité dans les abîmes. Il a purifié la terre, autrefois pleine de son empire, et l'a rendu digne du séjour des anges et des prophètes. De Paris, le 9 de la lune de Chaban, 1715. Lettre 95. Usbek à Redi, à Venise. Je n'ai jamais ouï parler du droit public qu'on ait commencé par rechercher soigneusement quelle est l'origine des sociétés, ce qui me paraît ridicule. Si les hommes n'en formaient point, s'ils se quittaient et se fuyaient les uns les autres, il faudrait en demander la raison et chercher pourquoi ils se tiennent séparés. Mais ils naissent tous liés les uns aux autres. Un fils est né auprès de son père et il s'y tient. Voilà la société et la cause de la société. Le droit public est plus connu en Europe qu'en Asie. Cependant, on peut dire que les passions des princes, la patience des peuples, la flatterie des écrivains en ont corrompu tous les principes. Ce droit, tel qu'il est aujourd'hui, est une science qui apprend aux princes jusqu'à quel point ils peuvent violer la justice sans choquer leurs intérêts. Quel dessein, Rédi, de vouloir, pour endurcir leur conscience, mettre l'iniquité en système, d'en donner des règles, d'en former des principes et d'en tirer des conséquences. La puissance illimitée de nos sublimes sultans, qui n'a d'autres règles qu'elle-même, ne produit pas plus de monstres que cet art indigne qui veut faire plier la justice, tout inflexible qu'elle est. On dirait, Rédi, qu'il y a deux justices toutes différentes, l'une qui règle les affaires des particuliers, qui règne dans le droit civil, l'autre qui règle les différends qui surviennent de peuple à peuple, qui tyrannisent dans le droit public. Comme si le droit public n'était pas lui-même un droit civil, non pas à la vérité d'un particulier, mais du monde. Je t'expliquerai dans une autre lettre mes pensées là-dessus. De Paris, le 1er de la lune de Zilagé, 1716. Lettre 96. Usbek au même. Les magistrats doivent rendre la justice de citoyen à citoyen. Chaque peuple la doit rendre lui-même de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distribution de justice, on ne peut employer d'autres maximes que dans la première. De peuple à peuple, il est rarement besoin de tiers pour juger, parce que les sujets de dispute sont presque toujours clairs et faciles à terminer. Les intérêts de deux nations sont ordinairement si séparés qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la trouver. On ne peut guère se prévenir dans sa propre cause. Il n'en est pas de même des différends qui arrivent entre particuliers. comme ils vivent en société, leurs intérêts sont si mêlés et si confondus, il y en a de tant de sortes différentes qu'il est nécessaire qu'un tiers débrouille ce que la cupidité des parties cherche à obscurcir. Il n'y a que deux sortes de guerres justes, les unes qui se font pour repousser un ennemi qui attaque, les autres pour secourir un allié qui est attaqué. Et il n'y aurait point de justice de faire la guerre pour des querelles particulières du prince, à moins que le cas ne fût si grave qu'il méritât la mort du prince ou du peuple qui l'a commis. Ainsi, un prince ne peut faire la guerre parce qu'on lui aura refusé un honneur qui lui est dû, ou parce qu'on aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard de ses ambassadeurs et autre chose pareille. Non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui lui refuse la préséance. La raison en est que, comme la déclaration de guerre doit être un acte de justice, dans laquelle il faut toujours que la peine soit proportionnée à la faute, il faut voir si celui à qui on déclare la guerre mérite la mort. Car faire la guerre à quelqu'un, c'est vouloir le punir de mort. Dans le droit public, l'acte de justice le plus sévère, c'est la guerre, puisqu'elle peut avoir l'effet de détruire la société. Les représailles sont du second degré. C'est une loi que les tribunaux n'ont pu s'empêcher d'observer, de mesurer la peine par le crime. Un troisième acte de justice est de priver un prince des avantages qu'il peut tirer de nous, proportionnant toujours la peine à l'offense. Le quatrième acte de justice, qui doit être le plus fréquent, est la renonciation à l'alliance du peuple dont on a à se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement, que les tribunaux ont établi pour retrancher les coupables de la société. Ainsi, un prince à l'alliance duquel nous renonçons est retranché de notre société et n'est plus un des membres qui la compose. On ne peut pas faire de plus grand affront à un prince que de renoncer à son alliance, ni lui faire de plus grand honneur que de la contracter. Il n'y a rien parmi les hommes qui leur soit plus glorieux et même plus utile que d'en voir d'autres toujours attentifs à leur conservation. Mais pour que l'alliance nous lie, il faut qu'elle soit juste. Ainsi, une alliance faite entre deux nations pour en opprimer une troisième n'est pas légitime, et on peut la violer sans crime. Il n'est pas même de l'honneur et de la dignité du prince de s'allier avec un tyran. On dit qu'un monarque d'Égypte fit avertir le roi de Samos de sa cruauté et de sa tyrannie, et le somma de s'en corriger. Comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu'il renonçait à son amitié et à son alliance. La conquête ne donne point un droit par elle-même. Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage de la paix et de la réparation du tort. Et si le peuple est détruit ou dispersé, elle est le monument d'une tyrannie. Les traités de paix sont si sacrés parmi les hommes qu'il semble qu'il soit la voix de la nature qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes lorsque les conditions en sont telles que les deux peuples peuvent se conserver. Sans quoi, celle des deux sociétés qui doit périr, privée de sa défense naturelle par la paix, la peut chercher dans la guerre. Car la nature, qui a établi les différents degrés de force et de faiblesse parmi les hommes, a encore souvent égalé la faiblesse à la force par le désespoir. Voilà, cher Rédi, ce que j'appelle le droit public. Voilà le droit des gens, ou plutôt celui de la raison. De Paris, le 4 de la lune de Zilager, 1716. Lettre 97. Le premier eunuque à Usbek, à Paris. Il est arrivé ici beaucoup de femmes jaunes du royaume de Visapour. J'en ai acheté une pour ton frère, le gouverneur de Mazandéran, qui m'envoya il y a un mois son commandement sublime et sans tomant. Je me connais en femmes, d'autant mieux qu'elles ne me surprennent pas, et qu'en moi, les yeux ne sont point troublés par les mouvements du cœur. Je n'ai jamais vu de beauté si régulière et si parfaite. Ses yeux brillants portent la vie sur son visage et relèvent l'éclat d'une couleur qui pourrait effacer tous les charmes de la Circassie. Le premier eunuque d'un négociant d'Ispahan la marchandait avec moi. Mais elle se dérobait dédaigneusement à ses regards et semblait chercher les miens, comme si elle avait voulu me dire qu'un vil marchand n'était pas digne d'elle et qu'elle était destinée à un plus illustre époux. Je te l'avoue, je sens en moi-même une joie secrète quand je pense au charme de cette belle personne. Il me semble que je la vois entrer dans le sérail de ton frère. Je me plais à prévoir l'étonnement de toutes ces femmes, la douleur impérieuse des unes, l'affliction muette mais plus douloureuse des autres, la consolation maligne de celles qui n'espèrent plus rien, et l'ambition irritée de celles qui espèrent encore. Je vais, d'un bout du royaume à l'autre, faire changer tout un sérail de face. Que de passions je vais émouvoir, que de craintes et de peines je prépare. Cependant, dans le trouble du dedans, le dehors ne sera pas moins tranquille. Les grandes révolutions seront cachées dans le fond du cœur. Les chagrins seront dévorés et les joies contenues. L'obéissance ne sera pas moins exacte et la règle moins inflexible. La douceur, toujours contrainte de paraître, sortira du fond même du désespoir. Nous remarquons que plus nous avons de femmes sous nos yeux, moins elles nous donnent d'embarras. Une plus grande nécessité de plaire, moins de facilité de s'unir, plus d'exemples de soumission. Tout cela leur forme des chaînes. Les unes sont sans cesse attentives sur les démarches des autres. Il semble que, de concert avec nous, elles travaillent à se rendre plus dépendantes. Elles font une partie de notre ouvrage et nous ouvrent les yeux quand nous les fermons. Que dis-je ? Elles irritent sans cesse le maître contre leur rival, et elles ne voient pas combien elles se trouvent près de celles qu'on punit. Mais tout cela, magnifique Seigneur, tout cela n'est rien sans la présence du maître. Que pouvons-nous faire avec ce vain fantôme d'une autorité qui ne se communique jamais tout entière ? Nous ne représentons que faiblement la moitié de toi-même. Nous ne pouvons que leur montrer une odieuse sévérité. Toi, tu tempères la crainte par les espérances, plus absolue quand tu caresses que tu ne l'es quand tu menaces. Reviens donc, magnifique Seigneur, reviens dans ces lieux portés partout les marques de ton empire. Viens adoucir des passions désespérées. Viens ôter tout prétexte de faillir. Viens apaiser l'amour qui murmure et rendre le devoir même aimable. Viens, enfin, soulager tes fidèles eunuques d'un fardeau qui s'apesantit chaque jour. Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Zilagé, 1716. Lettre 98. Usbek à Hassen, dervis de la montagne de Jaron. Ô toi, sage dervis, dont l'esprit curieux brille de tant de connaissances, écoute ce que je vais te dire. Il y a ici des philosophes qui, à la vérité, n'ont point atteint jusqu'au fait de la sagesse orientale. Ils n'ont point été ravis jusqu'au trône lumineux. Ils n'ont ni entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges retentissent, ni senti les formidables accès d'une fureur divine. Mais, laissés à eux-mêmes, privés des saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine. Tu ne saurais croire jusqu'où ce guide les a conduits. Ils ont débrouillé le chaos et ont expliqué, par une mécanique simple, l'ordre de l'architecture divine. L'auteur de la nature a donné du mouvement à la matière. Il n'en a pas fallu davantage pour produire cette prodigieuse variété d'effets que nous voyons dans l'univers. Que les législateurs ordinaires nous proposent des lois pour régler les sociétés des hommes, des lois aussi sujettes au changement que l'esprit de ceux qui les proposent et des peuples qui les observent, ceci ne nous parle que des lois générales, immuables, éternelles, qui s'observent sans aucune exception, avec un ordre, une régularité et une promptitude infinies dans l'immensité des espaces. Et que crois-tu, homme divin, que soient ces lois? Tu t'imagines peut-être qu'entrant dans le conseil de l'Éternel, tu vas être étonné par la sublimité des mystères. Tu renonces par avance à comprendre, tu ne te proposes que d'admirer. Mais tu changeras bientôt de pensée. Elles n'éblouissent point par un faux respect. Leur simplicité les a fait longtemps méconnaître, et ce n'est qu'après bien des réflexions qu'on en a vu toute la fécondité et toute l'étendue. La première est que tout corps tend à décrire une ligne droite, à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle qui l'en détourne. Et la seconde, qui n'en est qu'une suite, c'est que tout corps qui tourne autour d'un centre tend à s'en éloigner, parce que plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit approche de la ligne droite. Voilà, sublime Dervi, la clé de la nature. Voilà des principes féconds, dont on tire des conséquences à perte de vue. La connaissance de 5 ou 6 vérités a rendu leur philosophie pleine de miracles et leur a fait faire presque autant de prodiges et de merveilles que tout ce qu'on nous raconte de nos saints prophètes. Car enfin, je suis persuadé qu'il n'y a aucun de nos docteurs qui n'eût été embarrassé si on lui eût dit de peser dans une balance tout l'air qui est autour de la terre, ou de mesurer toute l'eau qui tombe chaque année sur sa surface, et qui n'eût pensé plus de 4 fois avant de dire combien de lieues le sont faits dans une heure, quel temps un rayon de lumière emploie à venir du soleil à nous, combien de toises il y a d'ici à Saturne, quelle est la courbe selon laquelle un vaisseau doit être taillé pour être le meilleur voilier qu'il soit possible. Peut-être que, si quelque homme divin avait orné les ouvrages de ces philosophes de paroles hautes et sublimes, s'il y avait mêlé des figures hardies et des allégories mystérieuses, il aurait fait un bel ouvrage qui n'aurait cédé qu'au Saint Alcoran. Cependant, s'il faut te dire ce que je pense, je ne m'accommode guère du style figuré. Il y a dans notre Alcoran un grand nombre de petites choses qui me paraissent toujours telles, quoiqu'elles soient relevées par la force et l'avis de l'expression. Il semble d'abord que les livres inspirés ne sont que les idées divines rendues en langage humain. Au contraire, dans notre Alcoran, on trouve souvent le langage de Dieu et les idées des hommes, comme si, par un admirable caprice, Dieu y avait dicté des paroles, et que l'homme eût fourni les pensées. Tu diras peut-être que je parle trop librement de ce qu'il y a de plus saint parmi nous. Tu croiras que c'est le fruit de l'indépendance où l'on vit dans ce pays. Non. Grâce au ciel, l'esprit n'a pas corrompu le cœur. Et tandis que je vivrai, Ali sera mon prophète. De Paris, le 15 de la lune de Chaban, 1716. Lettre 99. Usbek à Ibn, à Smyrne. Il n'y a point de pays au monde où la fortune soit si inconstante que dans celui-ci. Il arrive tous les 10 ans des révolutions qui précipitent le riche dans la misère et enlèvent le pauvre avec des ailes rapides au comble des richesses. Celui-ci est étonné de sa pauvreté, celui-là l'est de son abondance. Le nouveau riche admire la sagesse de la providence, le pauvre l'aveugle fatalité du destin. Ceux qui lèvent les tribus nagent au milieu des trésors. Parmi eux, il y a peu de tantales. Ils commencent pourtant ce métier par la dernière misère. Ils sont méprisés comme de la boue pendant qu'ils sont pauvres. Quand ils sont riches, on les estime assez. Aussi ne négligent-ils rien pour acquérir de l'estime. Ils sont à présent dans une situation bien terrible. On vient d'établir une chambre, qu'on appelle de justice, parce qu'elle va leur ravir tous leurs biens. Ils ne peuvent ni détourner ni cacher leurs effets, car on les oblige de les déclarer au juste, sous peine de la vie. Ainsi, on les fait passer par un défilé bien étroit, je veux dire, entre la vie et leur argent. Pour comble d'infortune, il y a un ministre, connu par son esprit, qui les honore de ses plaisanteries et badine sur toutes les délibérations du conseil. On ne trouve pas tous les jours des ministres disposés à faire rire le peuple, et l'on doit savoir, bon gré, à celui-ci de l'avoir entrepris. Le corps des laquais est plus respectable en France qu'ailleurs. C'est un séminaire de grands seigneurs. Il remplit le vide des autres états. Ceux qui le composent prennent la place des grands malheureux, des magistrats ruinés, des gentilshommes tués dans les fureurs de la guerre. Et quand ils ne peuvent pas suppléer par eux-mêmes, ils relèvent toutes les grandes maisons par le moyen de leurs filles, qui sont comme une espèce de fumier qui engraisse les terres montagneuses et arides. Je trouve, Ibben, la Providence admirable dans la manière dont elle a distribué les richesses. Si elle ne les avait accordées qu'aux gens de bien, on ne les aurait pas assez distingués de la vertu, et on n'en aurait plus senti tout le néant. Mais quand on examine qui sont les gens qui en sont les plus chargés, à force de mépriser les riches, on vient enfin à mépriser les richesses. De Paris, le 26 de la lune de Maharram, 1717. Lettre 100. Rika Haredi, à Vienne. Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'était les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir les portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches, et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leurs mères. Il en est des manières et de la façon de vivre, comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. De Paris, le 8 de la lune de Safar, 1717. Lettre 101. Rika au même. Je te parlais l'autre jour de l'inconstance prodigieuse des Français sur leur mode. Cependant, il est inconcevable à quel point ils en sont entêtés. Ils y rappellent tout, c'est la règle avec laquelle ils jugent de tout ce qui se fait chez les autres nations. Ce qui est étranger leur paraît toujours ridicule. Je t'avoue que je ne saurais guère ajuster cette fureur pour leurs coutumes avec l'inconstance avec laquelle ils en changent tous les jours. Quand je te dis qu'ils méprisent tout ce qui est étranger, je ne parle que des bagatelles. Car sur les choses importantes, ils semblent s'être méfiés d'eux-mêmes jusqu'à se dégrader. Ils avouent de bon cœur que les autres peuples sont plus sages, pourvu qu'on convienne qu'ils sont mieux vêtus. Ils veulent bien s'assujettir aux lois d'une nation rivale, pourvu que les perruquiers français décident, en législateurs, sur la forme des perruques étrangères. Rien ne leur paraît si beau que de voir le goût de leurs cuisiniers régner du septentrion au midi, et les ordonnances de leurs coiffeuses portées dans toutes les toilettes de l'Europe. Avec ces nobles avantages, que leur importe que le bon sens leur vienne d'ailleurs, et qu'ils aient pris de leurs voisins tout ce qui concerne le gouvernement politique et civil. Qui peut penser qu'un royaume, le plus ancien et le plus puissant de l'Europe, soit gouverné depuis plus de 10 siècles par des lois qui ne sont pas faites pour lui? Si les Français avaient été conquis, ceci ne serait pas difficile à comprendre. Mais ils sont les conquérants. Ils ont abandonné les lois anciennes faites par leur premier roi dans les assemblées générales de la nation, et ce qu'il y a de singulier, c'est que les lois romaines qu'ils ont prises à la place étaient en partie faites et en partie rédigées par des empereurs contemporains de leurs législateurs. Et, afin que l'acquisition fût entière et que tout le bon sens leur vînt d'ailleurs, ils ont adopté toutes les constitutions des papes et en ont fait une nouvelle partie de leurs droits. Nouveau genre de servitude. Il est vrai que dans les derniers temps, on a rédigé par écrit quelques statuts des villes et des provinces, mais ils sont presque tous pris du droit romain. Cette abondance des lois adoptées et pour ainsi dire naturalisées est si grande qu'elle accable également la justice et les juges. Mais ces volumes de lois ne sont rien en comparaison de cette armée effroyable de glossateurs, de commentateurs, de compilateurs. Gens aussi faibles par le peu de justesse de leur esprit qu'ils sont forts par leur nombre prodigieux. Ce n'est pas tout. Ces lois étrangères ont introduit des formalités dont l'excès est la honte de la raison humaine. Il serait assez difficile de décider si la forme s'est rendue plus pernicieuse lorsqu'elle est entrée dans la jurisprudence ou lorsqu'elle s'est logée dans la médecine. Si elle a fait plus de ravages sous la robe d'un jurisconsulte que sous le large chapeau d'un médecin. Et si, dans l'une, elle a plus ruiné de gens qu'elle n'en a tué dans l'autre. De Paris, le 17 de la lune de Safar, 1717. Lettre 102. Usbek à. On parle toujours ici de la Constitution. J'entrai l'autre jour dans une maison où je vis d'abord un gros homme avec un teint vermeil qui disait d'une voix forte. J'ai donné mon mandement. Je n'irai point répondre à tout ce que vous dites, mais lisez-le, ce mandement, et vous verrez que j'y ai résolu tous vos doutes. J'ai bien sué pour le faire, dit-il en portant la main sur le front. J'ai eu besoin de toute ma doctrine, et il m'a fallu lire bien des auteurs latins. Je le crois, dit un homme qui se trouva là, car c'est un bel ouvrage. Et je défierais bien ce jésuite qui vient si souvent vous voir d'en faire un meilleur. Lisez-le donc, reprit-il, et vous serez plus instruit sur ces matières dans un quart d'heure que si je vous en avais parlé toute la journée. Voilà comment il évitait d'entrer en conversation et de commettre sa suffisance. Mais comme il se vit pressé, il fut obligé de sortir de ses retranchements, et il commença à dire théologiquement force sottise, soutenu d'un dervis qui les lui rendait très respectueusement. Quand deux hommes, qui étaient là, lui niaient quelques principes, il disait d'abord « Cela est certain, nous l'avons jugé ainsi, et nous sommes des juges infaillibles. « Et comment ? » lui dis-je alors. « Êtes-vous des juges infaillibles ?»« Ne voyez-vous pas, reprit-il, que le Saint-Esprit nous éclaire ?»« Cela est heureux, lui répondis-je, car de la manière dont vous avez parlé aujourd'hui, je reconnais que vous avez grand besoin d'être éclairé. » De Paris, le 18 de la lune de Rébia, 1717. Lettre 103. Usbek à Ibn, à Smyrne. Les plus puissants états de l'Europe sont ceux de l'empereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. L'Italie et une grande partie de l'Allemagne sont partagées en un nombre infini de petits états, dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté. Nos glorieux sultans ont plus de femmes que quelques-uns de ces princes n'ont de sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont pas si unis, sont plus à plaindre. Leurs états sont ouverts comme des caravansérats, où ils sont obligés de loger les premiers qui viennent. Il faut donc qu'ils s'attachent aux grands princes et leur fassent part de leur frayeur plutôt que de leur amitié. La plupart des gouvernements d'Europe sont monarchiques, ou plutôt sont ainsi appelés, car je ne sais pas s'il y en a jamais eu véritablement de tels. Au moins est-il difficile qu'ils aient subsisté longtemps dans leur pureté. C'est un état violent qui dégénère toujours en despotisme ou en république. La puissance ne peut jamais être également partagée entre le peuple et le prince. L'équilibre est trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d'un côté pendant qu'il augmente de l'autre. Mais l'avantage est ordinairement du côté du prince, qui est à la tête des armées. Aussi, le pouvoir des rois d'Europe est-il bien grand, et on peut dire qu'ils l'ont tel qu'ils le veulent. Mais ils ne l'exercent point avec tant d'étendue que nos sultans. Premièrement, parce qu'ils ne veulent point choquer les mœurs et la religion des peuples. Secondement, parce qu'il n'est pas de leur intérêt de le porter si loin. Rien ne rapproche plus nos princes de la condition de leurs sujets que cet immense pouvoir qu'ils exercent sur eux. Rien ne les soumet plus aux revers et aux caprices de la fortune. L'usage où ils sont de faire mourir tous ceux qui leur déplaisent, au moindre signe qu'ils font, renverse la proportion qui doit être entre les fautes et les peines, qui est comme l'âme des États et l'harmonie des empires. Et cette proportion, scrupuleusement gardée par les princes chrétiens, leur donne un avantage infini sur nos sultans. Un persan, qui, par imprudence ou par malheur, s'est attiré la disgrâce du prince, est sûr de mourir. La moindre faute ou le moindre caprice le met dans cette nécessité. Mais, s'il avait attenté à la vie de son souverain, s'il avait voulu livrer ses places aux ennemis, il en serait quitte aussi pour perdre la vie. Il ne court donc pas plus de risques dans ce dernier cas que dans le premier. Aussi, dans la moindre disgrâce, voyant la mort certaine et ne voyant rien de pis, il se porte naturellement à troubler l'État et à conspirer contre le souverain, seule ressource qui lui reste. Il n'en est pas de même des grandes d'Europe, à qui la disgrâce n'ôte rien que la bienveillance et la faveur. Ils se retirent de la cour et ne songent qu'à jouir d'une vie tranquille et des avantages de leur naissance. Comme on ne les fait guère périr que pour le crime de lèse-majesté, ils craignent d'y tomber par la considération de ce qu'ils ont à perdre et du peu qu'ils ont à gagner, ce qui fait qu'on voit peu de révoltes et peu de princes qui périssent d'une mort violente. Si, dans cette autorité illimitée qu'ont nos princes, ils n'apportaient pas tant de précautions pour mettre leur vie en sûreté, ils ne vivraient pas un jour. Et s'ils n'avaient à leur solde un nombre innombrable de troupes pour tyranniser le reste de leurs sujets, leur empire ne subsisterait pas un mois. Il n'y a que 4 ou 5 siècles qu'un roi de France prit des gardes, contre l'usage de ces temps-là, pour se garantir des assassins qu'un petit prince d'Asie avait envoyés pour le faire périr. Jusque-là, les rois avaient vécu tranquilles au milieu de leurs sujets, comme des pères au milieu de leurs enfants. Bien loin que les rois de France puissent, de leur propre mouvement, ôter la vie à un de leurs sujets, comme nos sultans, ils portent au contraire toujours avec eux la grâce de tous les criminels. Il suffit qu'un homme ait été assez heureux pour voir l'auguste visage de son prince pour qu'il cesse d'être indigne de vivre. Ces monarques sont comme le soleil qui porte partout la chaleur et la vie. De Paris, le 8 de la lune de Rébia II, 1717. Lettre 104. Usbek au même. Pour suivre l'idée de ma dernière lettre, voici à peu près ce que me disait l'autre jour un Européen assez sensé. Le plus mauvais parti que les princes d'Asie aient pu prendre, c'est de se cacher comme ils font. Ils veulent se rendre plus respectables, mais ils font respecter la royauté et non pas le roi, et attachent l'esprit des sujets à un certain trône, et non pas à une certaine personne. Cette puissance invisible qui gouverne est toujours la même pour le peuple. Quoique 10 rois, qu'il ne connaît que de nom, se soient égorgés l'un après l'autre, il ne sent aucune différence. C'est comme s'il avait été gouverné successivement par des esprits. Si le détestable parricide de notre grand roi Henri IV avait porté ce coup sur un roi des Indes, maître du sceau royal et d'un trésor immense, qui aurait semblé amassé pour lui, il aurait pris tranquillement les rênes de l'Empire, sans qu'un seul homme eût pensé à réclamer son roi, sa famille et ses enfants. On s'étonne de ce qu'il n'y a presque jamais de changement dans le gouvernement des princes d'Orient. D'où vient cela, si ce n'est de ce qu'il est tyrannique et affreux? Les changements ne peuvent être faits que par le prince ou par le peuple. Mais là, les princes n'ont garde d'en faire, parce que dans un si haut degré de puissance, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. S'ils changeaient quelque chose, ce ne pourrait être qu'à leur préjudice. Quant au sujet, si quelqu'un d'eux forme quelque résolution, il ne saurait l'exécuter sur l'État. Il faudrait qu'il contrebalançât tout à coup une puissance redoutable et toujours unique. Le temps lui manque, comme les moyens. Mais il n'a qu'à aller à la source de ce pouvoir, et il ne lui faut qu'un bras et qu'un instant. Le meurtrier monte sur le trône, pendant que le monarque en descend, tombe et va expirer à ses pieds. Un mécontent, en Europe, songe à entretenir quelque intelligence secrète, à se jeter chez les ennemis, à se saisir de quelque place, à exciter quelques 20 murmures parmi les sujets. Un mécontent, en Asie, va droit au prince, étonne, frappe, renverse. Il en efface jusqu'à l'idée. Dans un instant, l'esclave et le maître, dans un instant, usurpateur et légitime. Malheureux le roi qui n'a qu'une tête. Il semble ne réunir sur elle toute sa puissance que pour indiquer au premier ambitieux l'endroit où il la trouvera tout entière. De Paris, le 17 de la lune de Rébia II, 1717. Lettre 105. Usbek au même. Tous les peuples d'Europe ne sont pas également soumis à leurs princes. Par exemple, l'humeur impatiente des Anglais ne laisse guère à leur roi le temps d'appesantir son autorité. La soumission et l'obéissance sont les vertus dont ils se piquent le moins. Ils disent là-dessus des choses bien extraordinaires. Selon eux, il n'y a qu'un lien qui puisse attacher les hommes, qui est celui de la gratitude. Un mari, une femme, un père et un fils ne sont liés entre eux que par l'amour qu'ils se portent ou par les bienfaits qu'ils se procurent. Et ces motifs divers de reconnaissance sont l'origine de tous les royaumes et de toutes les sociétés. Mais si un prince, bien loin de faire vivre ses sujets heureux, veut les accabler et les détruire, le fondement de l'obéissance cesse. Rien ne les lie, rien ne les attache à lui, et ils rentrent dans leur liberté naturelle. ils soutiennent que tout pouvoir sans bornes ne saurait être légitime, parce qu'il n'a jamais pu avoir d'origine légitime. « Car nous ne pouvons pas, disent-ils, donner à un autre plus de pouvoir sur nous que nous n'en avons nous-mêmes. Or, nous n'avons pas sur nous-mêmes un pouvoir sans bornes. Par exemple, nous ne pouvons pas nous ôter la vie. Personne n'a donc, conclut-il, sur la terre un tel pouvoir. » Le crime de lèse-majesté n'est autre chose, selon eux, que le crime que le plus faible commet contre le plus fort en lui désobéissant, de quelque manière qu'il lui désobéisse. Aussi, le peuple d'Angleterre, qui se trouva le plus fort contre un de leurs rois, déclara que c'était un crime de lèse-majesté à un prince de faire la guerre à ses sujets. Ils ont donc grande raison quand ils disent que le précepte de leur Alcoran qui ordonne de se soumettre aux puissances n'est pas bien difficile à suivre, puisqu'il leur est impossible de ne le pas observer. D'autant que ce n'est pas au plus vertueux qu'on les oblige de se soumettre, mais à celui qui est le plus fort. Les Anglais disent qu'un de leurs rois, ayant vaincu et fait prisonnier un prince qui lui disputait la couronne, voulut lui reprocher son infidélité et sa perfidie. « Il n'y a qu'un moment, dit le prince infortuné, qu'il vient d'être décidé lequel de nous deux est le traître. » Un usurpateur déclare rebelle tous ceux qui n'ont point opprimé la patrie comme lui, et, croyant qu'il n'y a pas de loi là où il ne voit point de juge, il fait révérer comme des arrêts du ciel les caprices du hasard et de la fortune. De Paris, le 20 de la lune de Rébia II, 1717.